France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, nous sommes le jeudi 17 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des vacances avant l'heure pour ceux qui ont choisi de s'auto-confiner avant les retrouvailles familiales. Le Premier ministre a donné l'autorisation aux élèves de rester à la maison aujourd'hui et demain. Le mouvement sera-t-il suivi? Comment s'organisent les établissements? Reportage Agnès dès le début du journal après les autres titres.
Le détail de la campagne de vaccination qui va débuter avant la fin de l'année. Le témoignage de Ségolène Vincent, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo au lendemain du verdict. La carte des sites des JO 2024 dévoilée aujourd'hui. Les principaux changements à découvrir dans le journal. Et puis pas de panique si vous avez perdu l'œil du cochon qui rit. Il est possible de racheter les pièces détachées des jeux de société.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Sont partis. Et dans la tourmente, plusieurs dizaines de membres ont claqué la porte pour aller chez Marine Le Pen. La stratégie solitaire de Nicolas Dupont-Aignan a-t-elle touché ses limites? Il répondra à 7h50.
Et à 8h20, à tout à l'heure Léa, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec donc la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à lui poser. Le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
Parce que le conseil scientifique recommande de s'isoler une semaine avant les fêtes de Noël, liberté a été donnée aux parents de garder leurs enfants à la maison aujourd'hui et demain. Seule obligation, prévenir l'établissement. Cela concerne en théorie les 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée. Alors combien seront absents aujourd'hui? Difficile de répondre, tant l'annonce mardi a pris tout le monde de court. Alexis Morel.
Après l'annonce gouvernementale, Christelle, principale d'un collège public plutôt favorisé en région parisienne, a interrogé les parents, combien comptent garder leurs enfants à la maison aujourd'hui?
La réponse est à 50-50. On est à 49% des familles qui font le choix de garder les enfants à la maison jeudi et vendredi et 51% qui les enverront au collège. On a été assez surpris de ce taux. On a traditionnellement des parents qui ont vraiment à cœur de faire suivre l'école aux enfants. Peut-être qu'on sous-estimait l'inquiétude des familles sur la possibilité de contamination des enfants à l'école. Ça nous a vraiment surpris.
Mais ce n'est pas une réalité partout, hein. Loin de là, dans une ville plus populaire du même département, une autre chef d'établissement prévoit 10 à 20% d'absents. Et qu'en est-il en primaire? Sophie est la directrice d'une école rurale en région centre. Pour l'instant, aucune absence annoncée chez elle, mais elle n'est pas sereine pour autant.
Mais ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que certains parents pensent que c'est acquis de ne pas mettre leur enfant et qu'ils n'ont pas forcément tous compris qu'ils devaient nous prévenir. Donc j'ai peur d'avoir beaucoup d'absents et qu'aucun ne m'ait prévenu. Du coup, ça a été compliqué de préparer ma classe pour aujourd'hui.
Sans compter qu'il va falloir très vite appeler ce matin les familles qui ne donneraient pas de nouvelles. Bref, une gestion dans l'urgence très inconfortable, confie la directrice.
Pour certains donc, les vacances débutent aujourd'hui, pour les autres ce sera demain soir. La SNCF attend 750 000 voyageurs pour ce week-end de départ, c'est 100 000 billets de moins vendus par rapport à la même période l'an dernier. Le train de la vaccination partira lui la dernière semaine de décembre. Le Premier ministre a donc détaillé hier devant les députés la stratégie et le calendrier choisi par le gouvernement. Les premières vaccinations fin décembre devrait cependant rester assez marginale. Il s'agit surtout, Véronique Julia, de donner l'exemple.
La campagne vaccinale pourra commencer sitôt obtenu le feu vert de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin Pfizer. Il est attendu pour lundi prochain. La Commission européenne devra le valider dans la foulée le 23 décembre. En France, la Haute Autorité de Santé précisera les conditions d'emploi du vaccin. Son avis sera rendu le 24, le 26, le 27 ou le 28 décembre. Tout cela nous conduit tout naturellement à la dernière semaine de l'année. Les premiers vaccinés en EHPAD seront des vaccinations symboliques pour l'exemple et surtout pour tester la logistique, car le défi de l'organisation est immense. Au total, 1 million de personnes, résidents et personnels d'EHPAD, sont ciblés par cette première étape. Elle doit s'échelonner sur 6 à 8 semaines avec 2 injections espacées de 21 jours. Dans les semaines à venir, 10 000 établissements collectifs devront être approvisionnés avec un vaccin qui se conserve à moins 80 degrés. Des super congélateurs postés dans les grands hôpitaux et sur des sites stratégiques permettront de les stocker. Une fois sortis du congélateur, leur transport ne devra pas excéder 12 heures et leur stockage dans un frigo classique sera limité à un peu plus de 4 jours. Préalablement à toute vaccination, un consentement éclairé du résident ou de sa famille devra être recueilli par son médecin traitant lors d'une consultation.
Plus de 17 000 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures, mais un taux de positivité qui reste stable à 6,2%. Ce sont les chiffres publiés hier soir par Santé Publique France, avec également 220 malades supplémentaires enregistrés dans les hôpitaux, mais une légère diminution du nombre de patients en réa. Une une deuxième vague difficile à juguler partout dans le monde. Près de 27 000 nouveaux cas en Allemagne et 698 décès en 24 heures. Nouveau record également aux États-Unis avec 250 000 cas et plus de 3 700 morts en une journée. Et des vaccinations en public demain pour le vice-président Mike Pence et la semaine prochaine pour Joe Biden. Record enfin au Brésil avec plus de 70 000 nouveaux cas et 936 décès enregistrés hier. Et parmi les secteurs qui souffrent partout dans le monde, la culture. En Cisjordanie occupée, une troupe de jeunes comédiens de Ramallah a ainsi monté une pièce de théâtre ambulante où les acteurs sont vendus aux enchères. Reportage d'Alice Froussard.
Sur scène, deux musiciens, trois acteurs, dont un commissaire-priseur. Le ton est lancé, c'est une vente aux enchères qui est jouée.
Il s'appelle Machin, mais son nom importe peu. C'est un professionnel, mais on ne lui a pas encore donné la chance d'être un professionnel. Il est très courageux, mais il n'a pas encore eu la chance d'être courageux.
Ici, on vend des comédiens, car ils n'ont plus trop d'utilité, précise l'actrice principale avant de lancer les enchères. Elle débute à 10 centimes, finit à 15. Mariam Bacha, jeune comédienne palestinienne, a écrit cette pièce, sa première en tant que dramaturge, en écho à la situation actuelle.
Nous, en tant qu'artistes, on est un peu devenus bon marché, si je puis dire. On se vend si peu cher en ce moment, afin d'avoir l'opportunité de créer, contribuer au monde artistique. Tout nous retient dans notre création. Et ce n'est pas seulement à cause de l'occupation, ça vient aussi de la situation économique et financière du pays. C'est comme si on attendait un événement qui risque de ne jamais arriver. Et il y a la pression, l'angoisse qui va avec. C'est de tout ça dont parle la pièce.
Tous les membres de la troupe sont volontaires et ils espèrent pouvoir continuer à attirer l'attention du public, des spectateurs, des institutions pour vivre leur métier comme avant. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Et en France, après les théâtres, les cinémas ont annoncé avoir saisi le Conseil d'État en urgence pour contester leur fermeture malgré le déconfinement. Pour en parler, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sera l'invitée du grand entretien d'Inter tout à l'heure à 8h20.
Il est pour l'instant 7h07, Agnès. Retour à présent sur le verdict des attentats de janvier 2015.
17 victimes de Charlie Hebdo à l'hypercachère et un procès de 54 jours pour étudier le rôle précis des 14 accusés. Tous jugés complices des trois terroristes qui ont été tués lors des attaques. Des peines de 4 ans de prison à 30 ans de réclusion criminelle ont été prononcées. Pour 6 des accusés, la Cour a retiré le caractère terroriste de l'association de malfaiteurs, estimant que certains n'avaient pas conscience de la radicalisation d'Amedi Coulibaly à qui ils ont fourni des armes. Un verdict de consensus aux yeux de Ségolène Vincent, survivante de l'attentat de Charlie Hebdo, même si ce verdict n'apaise pas sa peine ni le chagrin.
Là, ce verdict, pour une partie des accusés, en tout cas, finalement, il y a quand même quelques peines qui sont pas légères, enfin, qui peuvent être considérées comme légères, mais moi, que je trouve plutôt adaptées. Quelques parties civiles, dont je fais partie, avaient émis la crainte que ce soit une justice d'exception, que les accusés servent d'exemple et qu'ils soient pas tout à fait condamnés à la hauteur des délits ou des crimes qu'ils avaient commis, parce qu'on avait trouvé les réquisitoires un peu forts. Et voilà, une vérité a été dite, des culpabilités ont été reconnues. Mais moi, à ce stade-là, je ne sais toujours pas en fait où se trouve la vérité. Je suis toujours dans l'errance.
Un témoignage recueilli par Sophie Parmentier. Ali Riza Polat, qui a écopé de la plus lourde peine, a annoncé qu'il ferait appel de cette condamnation. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Et la carte des JO 2024 dévoilée aujourd'hui, Agnès.
On saura effectivement ce soir où vont se dérouler les épreuves des 32 disciplines de cette Olympiade, essentiellement à Paris et en Seine-Saint-Denis. Mais la crise sanitaire est passée par là et les organisateurs ont été contraints de réduire la voilure pour faire face à ce surcoût imprévu. Au total, le comité d'organisation des JO doit économiser 400 millions d'euros, dont un bon quart sur les sites. Stéphanie Mora nous dévoile les principaux changements.
Pour économiser 130 millions d'euros, il a fallu supprimer. À Saint-Denis, on ne construira pas deux piscines, mais une seule, le centre aquatique. L'autre bassin démontable coûtait trop cher. Les courses de natation se dérouleront donc à la Défense Arena. Baisser la facture, ça veut aussi dire déménager des épreuves. Et la surprise, les handballeurs s'exilent dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq. Philippe Bana, le nouveau président de la Fédération française de hand, avoue que la nouvelle n'est pas très bien passée au début.
Un premier sentiment de tristesse, parce qu'ils ont tous connu l'olympisme du village, ce bonheur d'être ensemble, de partager les choses. Et puis un deuxième sentiment d'opportunité sur l'île, de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Un moment magique au Mondial 2017, en quart de finale, dans un stade plein de 28 000 personnes. Il y a surtout une opportunité pour notre sport d'avoir une identité, d'exister dans des JO qui cassent souvent l'identité.
Ailleurs, le comité d'organisation a supprimé des sites pour rassembler plus de sports sur des points phares, comme le Stade de France, Bercy ou le Parc des Expos de Versailles. Résultat, le Bourget perd le volleyball, le Stade Jean-Bouin n'accueillera pas le rugby à 7 et il n'y aura que 7 stades de foot en France au lieu de 8. En revanche, l'idée de garder des épreuves au pied de monuments comme la Concorde, les Invalides ou la Tour Eiffel reste d'actualité.
Des Jeux Olympiques pour sportifs de haut niveau. Passons, Nicolas, aux jeux de société plus accessibles. Oui. Au commun des mortels, un marché en pleine expansion, plus 10% cette année où l'on est beaucoup, beaucoup resté à la maison, avec des nouveautés bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de ressortir les vieilles boîtes. Et là, c'est parfois le drame lorsqu'il vous manque les pions de puissance 4 ou le totem du Jungle Speed. Un Normand a donc eu l'idée de proposer la revente de pièces détachées, ça s'appelle « Refaites vos jeux » et ça marche, Delphine Evenoux.
Éducateur spécialisé, pendant son temps libre, Antoine Gallet invente des jeux et en trie aussi dans la ressourcerie où il est bénévole.
On n'arrivait pas à vendre les jeux incomplets. On était obligé de les ramener en déchetterie. Dans une envie de réduire encore plus les déchets est né ce projet.
Refaites vos jeux est pour l'instant artisanal, une simple page Facebook avec un catalogue, mais le trentenaire croule déjà sous les demandes.
Je reçois à peu près une centaine de messages par jour. Dimanche, je sais que j'ai fait partir 25 commandes en une seule journée.
Et les confinements ont remis les plateaux de jeux sur nos tables.
Il y a cette envie vraiment de retrouver ces temps en famille, avec le plaisir de pouvoir transmettre et de pouvoir partager. Et le jeu de société est vraiment un bon prétexte.
Les clients, souvent nostalgiques, cherchent des pièces bien précises, des organes pour le célèbre docteur Maboule.
Faut pas combler si tu veux opérer docteur Maboule.
Une arme pour le Cluedo ou la lettre N pour un vieux Scrabble. Mais le plus gros succès, c'est un classique qui a près de 90 ans.
C'est le cochon qui rit, qui reste le top 1 des demandes.
Oh, le cochon qui rit, c'est facile et rapide à jouer.
C'est des toutes petites pièces, en fait, les pattes, les oreilles, les yeux, surtout les yeux qui sont très demandés. Et c'est vrai qu'on les perd facilement.
Allez, un as et tu peux mettre une pièce.
Un forfait de 1 euro, puis 20 centimes par pièce et les frais de port. Et pour quelques euros...
Bravo, tu viens de finir ton cochon.
Voici de quoi s'occuper pour les fêtes.
Oh, c'est génial.
C'est génial, refaites vos jeux aussi sur franceinter.fr. Leur terrain de jeu à eux, ce sont les océans du monde entier. Yannick Bestavan est en tête ce matin du Vendée Globe à l'approche du Pacifique. Thomas Ruyant est deuxième, mais il est contraint à l'arrêt pour pomper l'eau qui s'est infiltrée dans la soute de son bateau. Quant à Charlie Dalin, après avoir réparé son foil bâbord, il est reparti dans la course.
Et voilà, merci Agnès Soubiran.